Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, vous l'entendez peut-être, nous sommes à l'Institut africain de management à Dakar, dans un amphithéâtre où se trouvent de nombreux étudiants. Merci à vous de nous accueillir. Vous le savez, la question du franc CFA agite les milieux économiques africains, comme l'illustre la récente mésaventure survenue au Togolais Kako Nubukpo, éjecté de l'Organisation internationale de la francophonie, pour avoir publiquement pris une position critique quant à l'impact économique de cette monnaie. Aujourd'hui, nous allons donc en débattre de ce franc CFA avec deux économistes sénégalais qui ont pris place autour de cette table. Bonjour Moubarak Lo.
Bonjour.
Moubarak Lo, vous êtes conseiller spécial et économiste en chef du Premier ministre du Sénégal. C'est donc un personnage important. Vous êtes aussi senior fellow à l'OCP Policy Center du Maroc. Et à côté de vous, quelqu'un qui a exercé dans le passé des fonctions proches de celles que vous exercez aujourd'hui. Bonjour, Chérif Salissi.
Bonjour, Jean-Pierre.
Chérif Salissi, vous avez en effet été conseiller technique du président de la République du Sénégal. Lequel ?
Abdoulaye Wade.
Et vous étiez aussi chargé des questions économiques avec grand ministre. Vous avez dirigé par ailleurs l'ANCAR, l'Agence nationale du conseil agricole rural. Vous êtes aujourd'hui directeur général d'un cabinet de consulting qui porte votre nom. Et vous êtes, pour terminer cette longue énumération de fonctions, secrétaire général de l'Association sénégalaise des économistes. Au cours de cette émission, des reportages, nous irons rejoindre Stéphanie Aglietti à Abidjan. Et Guillaume Thibault est ici à Dakar et il nous a produit aussi un reportage. Et puis nous donnerons la parole tout au long de cette émission aux étudiantes et aux étudiants de l'Institut africain de management qui sont autour de nous. Alors ma première question est celle-ci. Chérif Salissi, Moubarak Lo, pourquoi, à votre avis, la question du franc CFA est-elle sur le tapis depuis quelques années, Moubarak Lo?
Je pense qu'il y a beaucoup de passion autour du franc CFA, parfois avec des arguments pertinents, souvent avec de la passion tout simplement. Mais c'est tout à fait normal. Parce
mais pourquoi
que
maintenant?
Je pense que de plus en plus, il y a la médiatisation qui fait que la société civile est. Les populations s'intéressent aux questions qui sont importantes. Donc je mets ça plus dans le phénomène de la médiatisation qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde s'intéresse aux questions essentielles.
Chérif Salissi, pourquoi maintenant?
Je pense qu'il existe depuis une quinzaine d'années une génération de jeunes Africains très réseautés. Quoique ça, c'est important. En plus de ce qu'offrent les médias, par exemple sur Facebook ou autre, il y a beaucoup de personnes, dont moi, qui essayent d'y porter ce que nous discutons dans nos enseignements, dans nos séminaires et autres, dans un langage clair et simple. Et cette génération révoltée, si je puis m'exprimer ainsi, très panafricaniste, s'engage, reprenne le sujet qui n'a jamais été éteint. Il y a une lutte continue depuis 1939. Avec le mouvement panègre qui existait entre les deux guerres, et ça c'est amplifié, comme l'a dit Moubarak, avec les nouveaux médias.
Mais est-ce que le franc CFA est un obstacle au développement des pays africains qui l'ont pour monnaie? Il y en a 14 en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'est un obstacle?
Je ne pense pas qu'on puisse le dire de cette façon, même si j'entends le dire tout autour de moi. On ne peut pas dire de façon absolue que l'obstacle, ce qui freine le développement, c'est le franc CFA. Autrement, nous ne serions pas, nous, tous les pays africains, logés à la même enseigne. Je crois que ça, il faut le retenir. Mais sur quelques aspects, quelques agrégats, on peut étudier l'évolution économique et sociale en zone CFA et l'évolution hors zone CFA. Ce sont des indications, je le dis, qu'il faut prendre avec prudence. Il y a deux semaines, la Banque mondiale, je crois, a sorti une des informations disant que ces 20 dernières années, depuis la mise en place de l'euro, les pays non CFA ont cru dans l'ordre 6%, les pays CFA dans l'ordre 2,6 ou 4%. C'est des indications qu'il faut prendre avec des pincettes. J'espère que je reviendrai.
Ce que vous voulez dire, c'est que le fait que le CFA soit raccroché à l'euro maintenant et plus au franc français en fait une monnaie forte et que ça entrave son développement, le développement des pays
pas
comme le Sénégal.
Pas seulement en fait une monnaie forte. Prenons ces 5 dernières années. L'euro a perdu le quart de sa valeur. Mais la parité fixe n'a pas changé. Pour les entrepreneurs européens et les hommes d'affaires européens, c'est le même montant d'euros qu'il faut donner pour avoir 656 francs CFA. Donc, avec cette perte de valeur de l'euro, qui en profite sinon que c'est le monde des affaires français et la France.
Vous partagez ce point de vue, Moubarak Lo, c'est un avantage donné aux Français en particulier ?
Peut-être avant les Français, de manière générale. Moi, j'ai préparé cette émission, j'ai constitué toute une batterie d'indicateurs depuis 1960 pour regarder l'évolution sur quelques agrégats des pays CFA et des pays non CFA, en me concentrant notamment sur la dernière période, donc les 10 dernières années. Mais si vous comparez les pays CFA et les pays non CFA, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, prenons l'Afrique de l'Ouest, on ne peut pas dire que l'appartenance au franc CFA ait été un handicap. À la limite, la situation a été même meilleure. Bon, je vous prends deux pays. Vous prenez le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc vous les comparez, vous verrez que au niveau du PIB par tête, ils ont des niveaux
de produit intérieur
brut assez voisins, bon, avec un léger avantage pour le Ghana. Mais l'inflation, là où le Ghana, en 2016, par exemple, a une inflation qui fait 17%, en Côte d'Ivoire, c'était 0,7%. Donc, en termes d'inflation, de manière générale, ça c'est systématique, les pays CFA font beaucoup mieux que les pays non CFA, de manière très forte. Et c'est général. Si vous prenez le Nigeria, vous avez un taux d'inflation de 15%, vous prenez Sierra Leone, 10%, etc. Alors que dans les pays CFA, l'inflation dans tous les pays ne dépasse pas 2%. Donc, en termes de stabilité économique, les pays CFA font beaucoup mieux que les pays non CFA. En termes de croissance aussi, dans la période récente, ils font mieux. C'est vrai que dans le passé, dans les années 90, dans les années 80, historiquement, l'assertion était un peu vraie, que les pays non CFA faisaient mieux, mais depuis quinzaine d'années, aujourd'hui, il y a un rattrapage des pays CFA et qui font beaucoup même mieux avec de meilleurs fondamentaux en termes de stabilité macroéconomique. Donc, globalement, aujourd'hui, on peut dire, sans risque de se tromper, en Afrique de l'Ouest en tout cas, qu'il vaut mieux être dans CFA que dans non CFA.
Chérif Salif, laissez Chérif Salif si vous répondez sur ce point.
Le problème de l'inflation a tellement remué les économistes et je pense qu'on ne peut pas l'analyser selon qu'on est un pays dont la politique économique est fondée sur, disons, le monétarisme ou sur les réformes structurelles. Et selon aussi que le pays a une monnaie fluctuante ou une monnaie non fluctuante. Parce que l'inflation bloquée depuis 1970 ne peut pas être facteur de progrès. L'État manque de levier véritablement.
Vous voulez dire que le fait qu'il y ait 0,7% d'inflation dans un pays n'est pas un facteur positif à tous les coups.
0,7% dans un pays en termes de fluctuation sur quelques années, oui, mais sur 50 ans, c'est un non-sens économiquement parlant. Vous ne pouvez pas agir sur le levier de l'inflation. Je donne un exemple. L'inflation la baisse des ventes des matières premières. Le Nigeria a plusieurs reprises à utiliser le levier. L'inflation est un instrument de politique économique qui vous permet, dans certaines situations où la majeure partie de la population est pauvre, de taxer les consommations de biens de luxe importés depuis l'extérieur et pour créer un filet de sécurité pour, en cas de difficulté, soutenir les masses populaires pauvres. Et c'est ça, dans tous les manuels, c'est dans les non-dits de l'inflation ou les idées reçues de l'inflation. L'inflation est un instrument de politique économique qui permet, lorsque c'est situé dans une certaine tranche, je vais revenir là-dessus, entre, disons, 1 et 3, c'est là, c'est bon. Les Nations Unies ont fait une étude, depuis 5 ans, ils l'ont fait 3 fois. montrant qu'en termes de croissance sur le long terme, je précise que la croissance est un agrégat de long terme quand même, on ne l'étudie pas d'une année pour l'autre, ils ont montré que les pays qui avaient une meilleure performance, c'est les pays qui étaient entre 1 et 3. Les moins bonnes performances, c'était entre 1 et en dessous, et l'hyperinflation entre 7 et plus. L'inflation, donc, c'est un levier qu'on devrait pouvoir utiliser pour renforcer la compétitivité de l'économie. Si vous ne le faites pas, vous perdez un levier important pour la dynamisation de votre économie.
Moubarak Lo, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'inflation? Pourquoi est-ce que le franc CFA ne permet pas cette inflation que revendique, que veut, que cherche Chérif Chalissi?
Bon, c'est une question de vision. Vous savez, vous avez toujours ce débat entre les monétaristes. Les Keynésiens
donc,
étant...
Chérif Chalissi étant Keynésien, et vous monétariste?
Non, je suis pragmatique.
Je ne suis pas Keynésien. Je ne me classe pas, on me classe chez les hétérodoxes. Moi, je crois que je prends ce qui est bon ici,
ce qui est bon là-bas. Pragmatique.
Donc, vous êtes tous les deux pragmatiques.
Et je synthétise, disons, ce qu'il y a de mieux. Vous savez, là, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur le bon niveau d'inflation. Il est clair que si vous prenez la politique de la Banque Centrale Européenne, qui forcément influence la politique monétaire de la BCAO, l'objectif c'est une inflation proche de zéro, mais positive. Parce qu'une inflation nulle n'est pas bonne non plus. C'est-à-dire la stabilité totale des prix, c'est pas bon. Une inflation négative n'est pas bon, c'est la déflation. Parce que ça génère, disons, très souvent une production qui baisse. Donc le bon niveau d'inflation, en tout cas pour la Banque Centrale Européenne, pour la BCAO, c'est autant d'inflation proche de zéro mais positif. Donc je suis tout à fait d'accord avec Chérif, 1 à 3%. Pour l'Union Européenne c'est 2%, pour les pays de la BCAO c'est 3% parce que nous avons beaucoup plus de défis en termes de croissance. Mais le débat se pose, est-ce que le bon niveau ce serait de laisser jusqu'à 5 ou 7? Certains même vont dire que jusqu'à 8%, ce serait, disons, un bon taux. Mais ce débat ne sera jamais tranché. Mais je ne crois pas à un État qui use de l'inflation comme outil, disons, de politique économique pour augmenter les recettes ou bien pour pouvoir taxer tel ou tel.
Parce
que
c'est vrai que quand il y a l'inflation, ça augmente les recettes. On fait un débat sur le CFA. Et d'ailleurs, je voudrais vous entraîner à quelques rues d'ici, sur le quartier du plateau à Dakar, où notre correspondant dans la capitale sénégalaise, chez vous, messieurs, Guillaume Thibault, est allé tendre son micro aux cambistes pour leur demander leur avis sur le franc CFA. Est-ce que c'est une bonne monnaie? Est-ce que c'est une mauvaise monnaie? Est-ce qu'ils pourraient s'en passer ou pas? On écoute ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Guillaume Thibault.
Assis en bord de route ou bien installés dans leurs minuscules échoppes, les agents de change ont leur QG non loin du marché Sambdaga. Assis à côté de son énorme coffre-fort, Dame Day, cambiste depuis 7 ans, se félicite de la stabilité du CFA.
Oui, dès lors que c'est notre monnaie, on ne peut pas la considérer comme autrement. C'est une bonne monnaie pour nous. Vraiment, je vois que du bon sur cette monnaie. Avec la stabilité, le change se fait d'une manière correcte. Il y a moins de risques. On a un CFA qui est stable.
Une chaise en plastique, la main dans la poche, pour tenir les billets. Monsieur Modge est agent de change informel, comme il le dit, depuis bien plus longtemps, 20 ans de métier. Le franc CFA, comme les autres monnaies africaines, très peu pour lui.
Je préfère l'euro pour des raisons multiples. Nous, on a notre CFA. On a besoin que des euros.
Et si je vous amène du CFA, ça ne vous intéresse pas?
Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Le CFA est faible, très très faible. La monnaie gambienne est faible, la monnaie mauritanienne est faible, la monnaie guinéenne est faible. Est-ce qu'on ne pourrait pas être ensemble, avoir la monnaie unique? En Afrique, oui, c'était mieux.
Salou Diallo tend l'oreille, écoute son doyen. 2 ans qu'il travaille avec les différentes monnaies. Et une question.
Pourquoi la France n'a pas choisi le CFA?
Bonne question.
Le CFA, il utilise l'euro. Pourquoi?
Pour Dame Day, qui parle en comptant les billets sur son bureau, le problème du CFA, s'il y en a un, c'est une affaire d'experts.
Il y a des techniciens qui sont là, qui travaillent par rapport à ça, c'est leur métier. C'est eux qui doivent débattre de la possibilité ou non de changer ou de ne pas changer la monnaie. Mais nous, en tant qu'utilisateurs ou ménagères, comme on dit le terme économique, on n'a pas le droit de critiquer cette monnaie dès lors qu'on ne connaît pas les concepts et les dispositions préalables pour utiliser cette monnaie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation que je fais de cette monnaie.
Reportage signé Guillaume Thibault, donc ici à Dakar. Et je voudrais donner la parole à un des étudiants de cet Institut African Management, Oumarou Amadou Sambo. Oumarou, posez votre question.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous les auditeurs de RFI. La question que j'aimerais poser est la suivante. L'absence d'une monnaie propre ne porte-t-elle pas entrave à notre souveraineté? Sinon, il est utopique de parler de développement, d'émergence sans une indépendance économique.
Alors, cher Salif Sy, est-ce que le franc CFA, qui est donc lié à l'euro, nuit à la souveraineté, à l'indépendance économique du Sénégal, pour ne parler que de lui?
D'abord, je voudrais dire que, en tout cas, moi, je ne fétichise pas la monnaie. C'est un instrument, comme beaucoup d'autres instruments, pour le développement économique et social. Mais le malaise, il n'est pas tant. Et il n'est pas tant. Senghor l'a dit, je reviendrai là-dessus lui-même. Il n'est pas tant. Les gens sont mal à l'aise avec cette monnaie. Maintenant, c'est le problème de souveraineté, ça existe. Vous n'avez pas une gouvernance entière sur votre monnaie. Ça, c'est un grand problème. Les décisions fondamentales, quand par exemple l'euro est en compétition avec le dollar, qu'on fasse des dévaluations compétitives, on ne nous consulte pas. Les gens le ressentent. Et qui c'est qui le ressent? C'est ceux qui opèrent, ceux qui exportent ou ceux qui vendent.
Vous voulez dire que quand l'euro baisse, le CFA est dans le même bateau et qu'on ne demande pas leur avis aux banquiers centraux africains?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Quand on fait une dévaluation compétitive dans le temps face à l'Allemagne, oui, aujourd'hui face à la Chine, on ne consulte pas les autorités monétaires ouest-africaines. Ça, à ma connaissance, on ne le sait pas. Si ça se faisait, on le saurait. On les interpelle tout le temps. On interpelle tout le temps sur la question, oui, qu'ils nous disent s'ils sont au courant ou pas. Quand il n'y a pas de réponse, nous considérons que c'est non.
Oui, je pense qu'il y a trois éléments. Il y a les liens avec la France. C'est des liens particuliers. Est-ce qu'il faut les poursuivre ou pas? C'est un débat démocratique. C'est un vrai débat démocratique. La deuxième question, c'est les arrangements institutionnels au niveau technique. Aujourd'hui, je vous l'ai dit au début de l'émission, si on regarde les faits, les pays CFA n'ont pas à rougir. Ils font mieux sur beaucoup d'éléments que les pays non CFA. En tout cas, on ne peut pas démontrer que les arrangements institutionnels existants constituent un fardeau en termes de résultats économiques. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un débat chiffre sur chiffre et personne ne pourra m'en démontrer que...
Mais vous savez, à la radio, les chiffres... Si,
voilà, pas trop. Le troisième élément... 4 points. C'est au-delà du premier élément concernant la France. C'est vrai que la passion est plus sur ça que sur l'ancrage à l'euro. Parce que vous savez, même de grands pays font un ancrage sur d'autres monnaies. Parce que c'est une question de choix. Choisir aussi un taux de change totalement flottant, on connaît les risques. Et le choix a été de faire un taux de change fixe avec l'euro. L'avenir dira s'il faudra évoluer vers un système un peu plus flexible, éventuellement avec un panier de devises, éventuellement avec un léger flottement encadré. C'est des choses qui peuvent être discutées demain, parce que vous avez vu ce qui se passe au Maroc, parce que même le Maroc, sa monnaie est définie par rapport à l'euro et au dollar. Ils ont maintenant décidé de changer un peu les marges et de pouvoir flotter davantage. Donc ça, c'est des techniques que les pays choisissent par rapport à leur commerce extérieur, par rapport à leur stratégie de développement. Encore une fois, le vrai symbole, c'est les relations avec la France, mais c'est moins les arrangements avec l'euro, parce qu'un autre choix, il y a toujours des avantages et des inconvénients, et l'essentiel, c'est de faire un choix. Quatrième élément, la Banque Centrale Européenne ne maîtrise pas l'euro. La Banque Centrale Européenne, l'euro, c'est défini sur les marchés. C'est vrai que la Banque Centrale Européenne peut définir les taux d'intérêt, mais après, ils ne maîtrisent plus rien. Et donc, tout le reste, c'est défini sur le marché de change.
Chérif Salissi, vos 4 points, vous allez les donner dans la deuxième partie de cette émission. D'accord. Parce que pour l'instant, nous arriverons au terme de cette première partie. Nous allons nous interrompre quelques minutes pour un flash d'actualité. Je vous dis à tout de suite dans Écho d'ici Écho. D'ailleurs, restez à l'écoute.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous décortiquons le fonctionnement du franc CFA, la monnaie qu'ont en commun 14 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Nous le faisons depuis Dakar, la capitale sénégalaise. Avec l'ingénieur du son Bertrand Eclair, nous avons posé nos micros à l'Institut africain de management que nous remercions de nous accueillir. Pour débattre, deux personnalités ont accepté l'invitation de RFI. Chérif Salif Sy, ancien conseiller technique du président de la République du Sénégal Abdoulaye Wade, chargé des questions économiques avec Rand Ministre, ex-directeur de l'Agence nationale de conseil agricole et rural, l'ANCAR, et qui est aujourd'hui secrétaire général de l'Association sénégalaise des économistes. Face à vous, Chérif Salif Sy, Moubarak Lo, conseiller spécial et économiste en chef de l'actuel Premier ministre du Sénégal, Moubarak Lo, vous êtes également senior fellow à l'OCP Policy Center du Maroc. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons évoqué la manière dont le franc CFA impactait l'inflation dans les pays qui l'ont pour monnaie et nous avons un tout petit peu parlé de son impact sur l'économie sénégalaise. Dans cette deuxième partie, nous allons vous donner la parole à vous qui êtes dans cet amphithéâtre de l'Institut africain de management. Mais d'abord, cette question, Chérif Salif Sy, puis vous répondrez peut-être au cours de cette réponse à ce que vous vouliez dire tout à l'heure. L'existence d'une monnaie commune a-t-elle favorisé l'intégration économique des pays de l'UMOA et puis d'un côté et de ceux de la CEMAC de l'autre?
Je viens de dire, c'est sur ça d'ailleurs que je voulais donner quelques indications de l'annuaire statistique de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Mais je reviens sur ce que j'avais dit. L'instrument monétaire, même correctement manipulé, ne peut pas se substituer à l'ensemble des mesures politiques, économiques et sociales qui agiraient sur les données réelles de la problématique du développement. Il faut qu'on s'accorde sur ça. Mais lorsqu'on voit certains indicateurs, on ne peut pas s'empêcher de tiquer lorsqu'on dit que le CFA est favorable au développement. Vous prenez les PMA, les pays les moins avancés. 14 sont dans la zone CFA. C'est quand même extraordinaire. Vous prenez les indicateurs du développement humain. Sur les pays du bas, les 11 sont de la zone CFA. Vous prenez le crédit au secteur privé, à l'entreprise. On est à un ratio de 25%. La moyenne africaine est de 60%. La zone CEMAC CFA est de 16%. C'est des indicateurs qui dérangent, qui mettent mal à l'aise. Et puis, vous prenez les flux de capitaux illicites. 11% du PIB, nous représentons cela, les pays de la zone CFA, et les fuites se montent à 18,5%. Vous prenez, depuis 1960, la croissance. J'ai le tableau ici de tous les pays du monde. Hein. De 60 à aujourd'hui, la moyenne sur le continent africain, dans la zone CFA, est de 2,4%. Le Sénégal est à 2,5% entre 1960 et 2015.
Mais est-ce à cause du CFA?
Non, je dis que ça inquiète. On ne peut pas voir ça et dire que le CFA est facteur de développement. C'est ça que j'ai dit. Vous prenez ce ratio, le Sénégal est à 2,8% par exemple, alors que le taux de croissance de la population est quasiment du même ordre. En économie, cela veut dire que nous sommes en présence d'économies ou de pays qui ne peuvent pas nourrir leur population. C'est ça la signification quand même de ces ratios. Vous prenez la zone CFA, vous prenez le taux de croissance, le PIB par tête, il est de 1000 dollars. Mais vous faites des enquêtes sur le terrain. Je précise que je suis un ancien du Collège des statistiques de l'ENA. Lui aussi, c'est un grand statisticien. Mais voilà ce que disent nos enquêtes. Et c'est ce que dit le Trésor français. Vous avez un revenu par tête de 1000 dollars. Vous tapez dans votre poche, vous n'en avez que 500. Mais cela est dû aux survivances du pacte colonial qui fait que dans la zone CFA, vous pouvez transférer de façon tout à fait légale tout ce que vous gagnez dans la zone. Que vous soyez français, allemand ou sénégalais. Et je dis bien tout à fait légalement. Parce que les gens sont dans l'incertitude. Ils se disent que ça peut arriver, ne serait-ce que cette dimension psychologique. À quand la dévaluation? Va-t-elle arriver dimanche soir? Va-t-elle arriver lundi? Ça fragilise fondamentalement nos économies et ça fait que même ceux qui y opèrent n'ont pas confiance.
Moubarak Lo, alors vous êtes aux affaires aujourd'hui, Chérif Salif Sy l'était hier, vous l'êtes aujourd'hui.
Bon, je ne dirais pas comme les monétaristes que la monnaie est neutre. Moi, je suis un éclectique, si je peux dire. Aujourd'hui, la monnaie peut contribuer une partie dans l'accélération de la croissance. C'est tout à fait possible. Sur une année, en baissant les taux d'intérêt, en facilitant le crédit, vous pouvez faire une relance. C'est tout à fait possible. Mais sur le moyen et long terme, les vrais enjeux sont structurels. Vous savez, en matière d'évaluation, c'est toujours délicat de cibler une variable et de vouloir porter toute la responsabilité sur cette variable. Vous pouvez faire tous les tests que vous voulez. Vous regardez la convergence des pays par rapport aux pays les plus avancés depuis 1960. Vous verriez que le véritable problème, il est tout sauf monétaire. La variable monétaire n'est pas vraiment le vrai problème. Le vrai problème, il est structurel. Il est dans la gouvernance, il est dans notamment la gouvernance économique, dans l'environnement des affaires, dans les infrastructures, dans le capital humain, dans les choix de diversification ou non, dans le tissu industriel, dans le tissu agricole, dans les stratégies au niveau rural. Je pense que c'est ça les vraies questions aujourd'hui.
Mais Chérif Salif, si vous dit qu'il y a un espèce de pacte colonial qui pervertit tout ça.
Bon, vous savez, tout à l'heure, j'ai bien distingué l'aspect symbolique. Et ça va persister. Tant que la France sera là, tant que la monnaie s'appellera CFA, tant que les dépôts se feront à la Banque de France, ce problème va toujours exister. Personne ne peut le nier. Parce que, comme vous dites, maintenant, moi, je distingue l'aspect symbolique, et parce que les symboles sont quand même importants pour les États, de l'aspect réel. L'aspect réel, c'est, je vous ai dit, regardons les faits. Aujourd'hui, le franc CFA ne constitue ni un handicap, ni un atout indéniable pour le développement. C'est une variable dont il faut tenir compte. Il y a des ajustements qui peuvent sans doute être faits. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais les grandes réformes à faire, pour moi, c'est 90% de l'agenda. C'est les questions structurelles. Peut-être 10%, c'est les questions monétaires. C'est important parce qu'effectivement, si vous prenez le financement des PME, la politique monétaire et les choix de politique monétaire, l'encadrement du crédit, tout ça peut jouer sur le financement. Mais même le financement, le rationnement du financement, ce n'est pas toujours lié à la politique monétaire. C'est aussi la qualité des dossiers, c'est aussi la qualité de la gestion, c'est aussi la confiance.
Alors, il n'en demeure pas moins que les dirigeants politiques des pays d'Afrique de l'Ouest et certains d'Afrique centrale défendent mordicus le franc CFA. Par exemple, à Abidjan, le président Alassane Ouattara, clairement, ne veut entendre parler d'aucun mouvement. Stéphanie Aglietti, notre correspondante à Abidjan, était à la rencontre des chefs d'entreprise ivoiriens qui, eux aussi, militent pour le maintien du franc CFA. On écoute son reportage.
Dans la zone industrielle de Vridi, à Abidjan, devant les entrepôts de la CIMAT, entreprise ivoirienne spécialisée dans le transit maritime et aérien, le transport et l'entreposage, le va-et-vient des camions est incessant.
Vous voyez le cacao ? C'est du cacao qui est destiné à l'exportation. Bonjour, ça va ? Vous pouvez mettre encore combien de l'eau ?
Stéphane Eoli est le directeur général de la CIMAT et le débat autour du franc CFA, il a un peu de mal à le comprendre.
En tant que logisticien, je peux constater que le franc CFA, il n'y a pas d'inflation. Et aujourd'hui, on peut dire que le franc, vu l'activité que j'ai, est un gage de stabilité.
Même avis pour Marie Konaté, qui dirige la PME agroalimentaire PKL, spécialiste de l'alimentation pour bébés. Elle estime que le franc CFA n'est pas un frein au développement de l'industrie locale.
J'achète avec des paysans ivoirien. La monnaie est stable. Je sais que le maïs va me coûter tant, le riz va me coûter tant. Je suis là et je fais concurrence à des produits importés. Une fois que nous aurons suffisamment de production locale de biens et de services, alors on pourrait remettre en question le franc CFA. Mais on n'en est pas là. La monnaie forte peut être un inconvénient, mais il n'y a pas pire qu'une monnaie qui est totalement dévalorisée.
Elle assure que cette monnaie commune lui permet d'exporter plus facilement dans la zone UMOA. Pour Youssouf Karius, directeur de la société d'investissement Pulsar Partners, il faut dépassionner le débat.
C'est vrai qu'éthiquement, je suis pour qu'on parte sur une monnaie qui est propre à nous, qui est plus sous le contrôle d'autres instances monétaires, mais il faut le faire rationnellement pour pas que l'impact derrière soit une crise financière qui appauvrirait l'ensemble des populations des deux régions.
L'Union européenne reste le premier partenaire commercial de la zone franc, rappelle-t-il. Il préconise toutefois de réformer la parité du franc CFA en la calculant non plus seulement sur l'euro, mais sur un panier de monnaie pour permettre à d'autres pays de commercer plus facilement dans la zone.
Je pense que c'est la solution la plus à propos pour avoir de la stabilité monétaire et pour répondre au fait qu'aujourd'hui les conditions commerciales sont pas adéquates pour faire entrer d'autres catégories d'investisseurs ou d'échangeurs, entre guillemets, de commerciaux. Les Américains aujourd'hui sont défavorisés sur notre marché, tout comme les Chinois par rapport aux Européens, parce qu'ils n'ont pas justement cette stabilité des termes de l'échange.
Reste à savoir, concède-t-il, si la fin de cette iniquité pourrait à elle seule garantir une augmentation des investissements provenant d'autres zones du monde.
Un reportage signé Stéphanie Aglietti à Abidjan qui suscite déjà questions dans la salle.
Bonjour à toutes et à tous. Oui. Je me présente, c'est Mohamedou Mansour Sek, ancien étudiant à l'Institut africain de management, spécialiste en gestion des ressources humaines. Depuis quelque temps, quand on entend parler du franc CFA, on croirait que CFA signifierait des problèmes que les Français ont créés en Afrique. Cela veut dire, je m'amuse même à dire, controverse créée par les Français en Afrique. C'est comme ça que j'appelle le CFA. Alors que le CFA est un franc qui a été amené par les Français jusqu'à nous et qui signifie un franc pour les colonies françaises d'Afrique. Maintenant, la question, elle est simple. Nous ne sommes plus des colonies, nous sommes des pays. Est-ce que ce franc-là, notre grand-père, le CFA, ne souffrirait-il pas vraiment d'obsolescence? Merci.
Merci pour cette question. Moubarak Lo, vous avez
bon,
déjà...
D'abord, le nom a changé. Maintenant, c'est communauté française africaine.
Absolument.
On va y peut-être en parler tout à l'heure. On oublie, dans tout le débat qui se pose autour du CFA, que nos chefs d'État ont signé la création d'une monnaie commune en Afrique de l'Ouest.
Ouais, on allait y venir.
Donc, normalement, tout ce débat-là n'aura plus lieu d'être dans quelques années. Et vous savez, la création d'une monnaie unique de l'Afrique de l'Ouest, ça dépend que des États. Ils ont déjà accepté le principe, ils ont défini une feuille de route. Aujourd'hui, si on applique cette feuille de route, bien évidemment, ce débat sera dépassé. Mais il faudra gérer dans l'intermédiaire. Et c'est là où peut-être qu'il faudra voir, est-ce qu'il faut garder le statu quo ou faire quelques aménagements.
Aménagements,
c'est le vrai débat.
Je suis d'accord sur ce qu'il dit, mais moi, je ne suis pas pour une réforme adaptative du franc CFA. Dès lors qu'en 1983, les chefs d'État de la zone ont décidé de créer leur monnaie. C'est cette monnaie, mon combat, qu'elle voit le jour. Mais quand même, on ne peut pas s'empêcher de dire que pourquoi on en est arrivé là. Et là, je donne un événement qui s'est passé en 1966. Souvent, on crétinise ceux qui sont contre le franc CFA. On oublie même qu'ils ne sont pas au même niveau. Moi, je n'ai rien à voir. Je n'ai rien contre Kako, contre Sémi Kaba, que je n'ai jamais vu, Mais je suis contre le franc CFA dans sa gouvernance pour d'autres raisons. Je ne suis pas pour le tout ou rien. Mais sur ces Ouattara, il est important de dire que la dernière réunion des chefs d'État avec la commission de la MAO, l'agence monétaire ouest-africaine qui a en charge la création de la monnaie, mais c'est lui qui l'a présidé. Jusqu'à preuve du contraire, la signature de la Côte d'Ivoire n'a pas été retirée. Ouattara est partie prenante de la monnaie à venir. Je ne dirais pas pour autant qu'il joue de l'hypocrisie. Il sait comme moi que cette monnaie ne sortira pas en 2020. Mais je reviens sur ce que j'ai dit avec ta clémence. Le malaise avec le franc CFA est apparu dès 1965. En vue d'une réunion en 1966, le groupe des chefs d'État avait commis le président Diori Armani pour une réflexion sur la situation du franc CFA qui les mettait mal à l'aise en termes de gouvernance à l'époque. Ce n'était pas pour des considérations économiques. Il sentait qu'il n'avait pas la main, l'emprise sur ce franc. Diori Armani avait pour mandat de trouver un économiste pour réfléchir sur la situation du franc CFA et de formuler des alternatives. L'économiste qui a été choisi, c'est mon patron et mon collègue Samir Amine, qui est ici à Dakar. C'est lui qui a fait le travail. En 1977, exactement le 7 juillet, à Jeune Afrique, l'entretien du président Senghor a été porté sur la monnaie CFA, une longue histoire entre maître et esclave. Voici ce que Senghor disait. Aujourd'hui, on est colonisé et on ment à notre peuple en disant qu'il est libre. En 1973, Abdou Diouf adhère à la décision de la CEDEAO. Mais moi, mon combat se situe à ce niveau.
Alors, je rappelle qu'on est sur RFI, dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, qu'on parle, s'il est nécessaire de le rappeler, du franc CFA, avec Moubarak Lowe, qui est donc conseiller principal, économiste en chef du Premier ministre, et Chérif Salif Sy, qui est ancien conseiller d'Abdoulaye Wade, avec rendre ministre, et qui est le secrétaire général de l'Association des économistes sénégalais. Moubarak Lowe, vous répondez sur cette question, et puis on repasse la parole à la
oui,
salle après.
Comme je disais tout à l'heure, il faut dépassionner le débat avec les trois éléments. Le premier élément, c'est le futur. Le futur, il est clair. C'est une question de volonté politique. C'est une question aussi de pragmatisme. C'est vrai que la monnaie unique de la CEDEAO, il y a des possibilités d'y aller, disons, à géométrie variable. C'est-à-dire les pays qui sont prêts pourraient, à partir de la zone CFA, parce que ces huit pays iraient ensemble, de voir quels sont les autres pays qui pourraient se regrouper avec ces pays. Ce ne serait pas le CFA, mais cette monnaie de la CEDEAO et créer une zone CEDEAO qui pourrait avoir 12-13 pays en attendant que des pays comme le Nigeria soient prêts. Ça, c'est le futur. Le deuxième élément, c'est la période transitoire en attendant d'arriver à cette monnaie de l'Afrique de l'Ouest. En tant que responsable, nous ne pouvons pas ne pas gérer cette transition. Et c'est pourquoi nous sommes preneurs en tant qu'État et décideurs de toute suggestion des économistes pour si on peut nous démontrer qu'il est possible d'améliorer la gestion monétaire actuelle, il faudrait mettre ça sur la table. Le troisième élément, c'est l'aspect symbolique, c'est les relations avec la France. Ça, on ne pourra jamais l'écarter tant que la France sera là.
Alors, on va prendre une autre question. Monsieur, vous avez une question?
Oui, bonjour, je m'appelle Djibril Gabigay, étudiant en licence 3, contrôle et gestion. Ma question est la suivante. En fait, j'aimerais savoir, ne pensez-vous pas qu'il est plus opportun d'aller vers une réforme du partenariat entre le franc CFA et l'Europe, au lieu d'aller vers une monnaie qui sera garantie par un pays dont l'économie est basée sur le pétrole qui n'est pas stable?
Merci pour cette question très intéressante. La question est posée est-ce qu'il est viable pour un bloc de pays ouest-africains de s'allier au Nigeria pour avoir une monnaie commune, alors qu'on sait que c'est un géant économique et que son économie dépend pour une bonne part du pétrole qui fluctue beaucoup. Moubarak Lowe.
Bon, il n'y a pas que le Nigeria. Je pense que progressivement, les pays vont développer des capacités de mobilisation de réserves, comme la Côte d'Ivoire. Le Sénégal aussi, c'est un pays qui va avoir demain du pétrole et du gaz. Le Ghana est en train de progresser. Le Mali, le Niger, tous ces pays, je pense, vont améliorer progressivement leur capacité de développement des réserves. Donc, c'est tout à fait viable.
Vous voyez, la question et la réponse que vous faites, on a l'impression que tous ces pays ne sont que des pays exportateurs. Vous ne concevez vos économies que comme des économies exportatrices et non pas tournées vers les marchés intérieurs,
en
vers
vérité,
le développement.
Il parle de la garantie de la convertibilité.
Mais dans votre réponse.
Oui, c'est parce que les deux sont liés. Vous ne pouvez pas garantir la convertibilité si vous n'avez pas des capacités de réserve. Parce que si on vous amène un dollar ou votre monnaie, vous devez pouvoir le transformer en dollar. Donc il vous faut des réserves. C'est pourquoi les exportations sont importantes.
Une autre question.
Bonjour, je me présente Honoré Pereira, étudiant à l'Institut africain de management. Donc ma question était par rapport à la croissance économique en Afrique. Donc on parle de croissance en termes de PIB, mais en termes de PIB d'exportation, que c'est plutôt une croissance appauvrissante parce que c'est plutôt des investissements directs étrangers qui sont là à l'aise dans les pays de la zone franc grâce à des politiques. Par exemple, le taux de change fixe et le taux inflationniste qui est limité à 2% par la Banque Centrale Européenne, qui fabrique d'ailleurs nos billets depuis les indépendances, 60 ans après les indépendances. Donc, mon problème, ce serait, ma question est à savoir si le CFA, finalement, n'est-il pas un outil politique et économique sur les pays africains?
Chérif Salif Sy.
Moi, je suis plusieurs fois revenu sur la question, hein. D'abord, je voudrais préciser que, par exemple, prenons le Sénégal. Comme tous les autres pays, hein, les taux de croissance les plus élevés, c'était dans la période des années 70. Le taux de croissance le plus élevé dans l'histoire du Sénégal, c'est en 1975, 8,9%. Il faut que nous arrêtions de fétichiser la croissance. La croissance est un levier, important. Je crois qu'une société doit créer des richesses, mais le problème de la croissance la mauvaise répartition de cette croissance, c'est ça que tu soulèves quand tu parles de ce concept de croissance appauvrissante, c'est qu'il y a de l'argent qui est créé ici, de la richesse qui est créée, mais la moitié de la richesse s'en va purement et simplement. Ce qui maintient les populations dans un état de pauvreté, nous importons la moitié de nos aliments, nous sommes nourris par l'extérieur. Et c'est encore plus grave pour ceux qui ne produisent pas du pétrole. Pour ceux qui produisent du pétrole, des fois, la situation est chaotique. Là, on est d'accord, Moubarak et moi, ce n'est pas une affaire de CFA, c'est un problème de gouvernance. Il faut qu'on arrive à appréhender la croissance autrement. Je crois que je connais trois économistes qui sont tous des libéraux, Jacques Rueff, il y a Van Mogis et tout ça, qui disent qu'ils ne sont pas d'accord du tout avec Moubarak. La monnaie, instrument comme les autres instruments, est le levier principal du développement économique et social. C'est la monnaie qui vous permet d'avoir une gestion de la situation monétaire qui correspond à votre niveau de développement. Et c'est la monnaie en agissant sur certains leviers que sont l'inflation qui permet l'offre de monnaie. J'ai fait une étude avec un brillant professeur brésilien, Paulo Nakatani, sur le rôle de l'inflation dans le développement. Nous sommes arrivés aux mêmes conclusions en étudiant 36 pays sous-développés. Le taux d'inflation, plus il est bloqué, il est, comment on dit, réfrigéré, gelé, il ne permet pas d'accorder le crédit nécessaire au secteur privé pour son développement. Et vous remarquerez que ce qui est extraordinaire, nous sommes dans des taux d'intérêt pour le secteur privé. C'est-à-dire quand le secteur privé a besoin d'argent pour investir ou pour travailler, et le patronat s'en plaint toujours en Afrique de l'Ouest, 22%, quelquefois 28%. Dans quelle région du monde voyez-vous cela,
Moubarak Lo?
Bon, je ne vois pas les taux dont il parle. Aujourd'hui, le taux d'intérêt dans la zone CFA a beaucoup baissé. Parce que même le taux auquel prêtent les banques, si vous avez regardé les rapports de la banque centrale, ça a baissé presque de 2 points.
Mais
de 8 à 6.
Quel est le lien entre le franc CFA et les taux d'intérêt?
Non, parce que, vous savez, la politique monétaire, c'est de la zone BCAO, doit suivre en quelque sorte la politique monétaire de la zone euro. On ne peut pas avoir des différentiels de taux d'intérêt, on doit avoir un différentiel de taux d'intérêt, je veux dire, mais il ne doit pas être très élevé, parce qu'on est presque dans une même zone monétaire.
On est quasiment à des taux négatifs.
Oui, on doit maintenir un différentiel avec l'euro, sinon tout va aller en Europe.
Mais le taux auquel on prête en Europe et aux États-Unis au secteur privé dépasse rarement 3%. C'est ça le problème.
Parce que le taux de la Banque centrale européenne est à 0,25.
Oui, mais
aujourd'hui, la Banque centrale prête à 2,5. Donc, on a juste ajouté 2,25.
Alors, on va redonner la parole à la salle pour une dernière question, monsieur.
Bonjour, je suis Charisma Melemoko. Ma question est celle-ci. Déjà, nous savons très bien que les banques centrales de la zone franc verse des réserves au niveau du trésor français. Ma question est celle-ci. Ces réserves, l'argent qu'on verse au niveau du trésor français, sont fournis par les efforts des paysans. Maintenant, face à la dégradation de l'état de santé des paysans, est-ce que les gouverneurs des banques centrales de la zone franc, pourquoi ils ne peuvent pas rapatrier une partie de ces réserves pour financer les infrastructures sanitaires?
Moubarak Lo,
les réserves qu'on a déposées, ce n'est pas de l'argent que vous pouvez prendre. C'est ça qui fonde votre convertibilité. Si vous enlevez ces réserves, demain, vous n'avez plus de convertibilité. Donc, c'est ces réserves que vous devez justement mettre quelque part, assurer en les plaçant, qui garantissent que demain, votre monnaie est convertible. C'est ça qui fait la convertibilité du franc CFA. Sinon, ce n'est plus convertible.
Et votre crédibilité. Les réserves, je le dis souvent à d'autres amis qui se battent autrement sur le franc CFA, je leur dis souvent, laissez les réserves tranquilles. Les réserves, c'est le matelas sur lequel vous dormez. Si vous les prenez, vous dormez au bord de la plage. Mais la gestion des réserves pose quand même un problème. Quand je prête mon argent à une banque, peu m'importe le taux auquel la banque prête cet argent à d'autres. Ce qui m'importe, c'est lorsque j'ai besoin de mon argent d'en disposer. Mais ce cas-ci, il se trouve que le Trésor français n'est pas une banque comme une autre. Même si le taux est à 0,1%,
des dizaines de milliards de milliards, vous les prêtez à 0,1%, ça pénalise aussi notre zone, il faut le dire.
La Banque de France donne 0,75%.
Mais je sais.
Donc elle rémunère ses placements.
Plus que le taux qu'il donne aujourd'hui, il donne 0,25. Il nous donne 0,75, donc on a gagné 0,5.
Et combien elle gagne ?
C'est un minimum. Le vrai débat, c'est là où je voulais insister, ce n'est pas la monnaie, c'est important, mais ce n'est pas le vrai débat. Absolument. Aujourd'hui, les vraies réformes à faire, c'est comment créer un tissu de secteur privé dynamique. Aujourd'hui, vous vouliez même faire du crédit, à qui vous allez donner le crédit ? Comment améliorer les infrastructures ? Comment améliorer le capital humain ? Comment améliorer la gouvernance économique ? Donc, ne noyons pas le poisson, attaquons ces réformes structurelles et... Maintenant, donnons-nous effectivement, avec éventuellement des ajustements sur la gestion monétaire, d'améliorer les choses de ce niveau-là.
Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous deux, Chérif Salipsi et Moubarak Lo, d'y avoir participé, de l'avoir animé par vos remarques, par votre conversation. Merci à Coralie Briand de l'Institut africain de management pour l'organisation mise en place. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission qui était mise en onde et réalisée par Bertrand Éclair et Guillaume Munier, que vous pouvez nous réécouter ou nous podcaster en allant sur l'application Pure Radio sur notre site www.rfi.fr. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.